grand dialogue
sigi kafoba
edowani wa makaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni biro
halud mauni
chenni biri sigi kafoba
le grand dialogue
le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 12 septembre 2014. Bienvenue au Grand Dialogue d'aujourd'hui qui parle de la lutte contre l'impunité au Mali. Trois axes pour ce débat. La justice en temps de crise, les libérations extrajudiciaires au Mali et la justice est-elle une chance pour la paix? Pour débattre de cette question, deux invités, Saloum Traoré, directeur exécutif d'Amnesty International Mali, Mamadou Batili de l'association Les Sofas de la République. Merci messieurs pour votre disponibilité. Je suis Moussa Sidibé, Petit Ndiara est à la mise en onde.
Studio Tamani.
La coordination dirigée par la Fédération internationale des droits de l'homme a appelé hier à Bamako à ce que la justice soit rendue aux victimes des crimes internationaux en organisant une marche contre l'impunité, en condamnant entre autres les libérations extrajudiciaires et en déplorant le retard de la mise en place de la commission d'enquête internationale sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité au Mali. Alors, la première phase de ce débat, est-il possible de parler de justice aujourd'hui dans le contexte malien, Saloum Traoré d'Amnesty International.
Merci beaucoup pour m'avoir convié à ce débat. Je pourrais vous dire que je suis ici beaucoup plus en tant que président du réseau des défenseurs des droits humains du Mali, qui regroupe 30 organisations, beaucoup plus qu'en tant que simple directeur d'Amnesty International Mali. Et je vous dis simplement, pour commencer, que la justice doit être faite à tout moment. Il n'y a pas un moment précis où il ne doit pas avoir de justice. Même pendant les guerres, quand on peut parfois suspendre une partie des droits, on ne peut pas suspendre le droit à la justice. Donc à n'importe quel moment, la justice doit être possible.
Est-ce que vous partagez cet avis, Mamadou Batili?
Absolument, absolument. Et d'abord, merci pour cette invitation. Le débat, il est très important et aussi le contexte s'y prête à merveille pour aborder cette question de justice. Et comme mon aîné, il n'y a pas de moment pour la justice. La justice, c'est le début, le milieu et la fin. C'est le fondement de chaque société. Rien dans une société ne saurait atteindre ses objectifs sans un fondement sur la justice. Donc vouloir classer ou classifier ou répertorier des moments d'application de la justice, c'est une forme, si vous voulez, de torpiller la justice. Parce que c'est une fois une tentative de donner à la justice deux missions, deux formes, deux capacités qui n'en existent pas. Nous devons retourner et redonner à la justice sa forme, sa mission, sa force qui est de veiller, si vous voulez, à l'équilibre social par le biais des règles. Les règles ne sont en réalité que ce que la société, de manière consensuelle, a érigé pour réguler sa vie en société afin de se mettre à l'abri des arbitraires, des abus des uns et des autres et de préserver le socle de l'unité sociale, de la cohésion qui est le principe de l'égalité de tous. Et ce principe recommande qu'à tout moment du réveil ou se coucher, qu'à tout instant de la vie de l'individu, qu'il ne puisse pas en une seconde penser qu'il a été oublié par le garant de ce principe de l'égalité, de cette liberté. Et le garant de cette liberté, c'est la justice à travers les règles, à travers les hommes qui sont en charge de l'appliquer et à travers aussi les institutions qui dotent les moyens à ces hommes et à la loi de pouvoir se faire appliquer à tout moment pour que chaque personne, en tout moment, en tout lieu, puisse se dire que moi, je suis sous le regard de la justice. Donc rien que je puisse faire ne peut échapper à la justice. Partout où je suis, la justice a ses yeux sur moi. Et donc c'est comme le Dieu omnipotent qui est sur nous. Et tant que nous avons cela en présence d'esprit, alors il ne doit pas nous arriver de vouloir un moment donné sous prétexte que la justice nous a oublié de commettre ce qui ne doit pas être commis.
Alors pour un pays qui sort de crise comme le Mali, il est toujours... on tente de faire la paix entre les deux parties. Le gouvernement est en négociation pour parler avec les groupes armés à Alger pour trouver un consensus autour de cette question de la crise. Aujourd'hui, tout le monde veut aller vite, mais on sait que les procédures judiciaires prennent du temps. Est-ce qu'il faut aujourd'hui bâcler les procédures ou bien instaurer une autre forme de justice au Mali, Saloum Traoré?
Je dirais qu'il faut instaurer une autre forme de justice au Mali. Et particulièrement, je penche pour la justice transitionnelle, parce que c'est cette justice qui permet de pouvoir aller très rapidement, de pouvoir juger beaucoup de personnes dans un temps record, et surtout d'aboutir à la vérité, d'aboutir à la réparation. Parce que c'est surtout la réparation qui compte. Quand le fondement même de la société est touché, quand tous les droits sont violés d'une manière ou d'une autre, c'est la justice traditionnelle qui peut intervenir. La justice traditionnelle prendra trop de temps et la justice traditionnelle ne va pas trop s'occuper des victimes. Parce que dans la justice traditionnelle, c'est les victimes surtout qu'on voit. Il faut la vérité, il faut la justice effectivement qui va donner la vérité. Et de cette vérité, il y a des obligations qui vont naître. L'obligation de réparer. Il faut que l'État puisse faire la réparation. Et après cette réparation maintenant, on peut alors en ce moment parler de réconciliation, on peut parler de la société qui se retrouve, etc. etc. Parce que s'il n'y a pas cette justice, la paix que nous prenons ne peut pas être vraiment une paix durable. C'est un peu comme si vous venez vous trouver des braises qui sont enfuies sous la cendre. Il suffit que vous posiez le pied là-dessus pour savoir qu'en bas, ça brûle. Et donc, quand il y a la justice, quand il y a la vérité qui a été dite entre les gens peuvent en ce moment-là se pardonner. Les gens peuvent en ce moment-là vraiment reprendre la vie, vivre correctement. Je vous donne un petit exemple. Lorsque, dans nos recherches, nous sommes arrivés à Gao, on nous a présenté deux familles côte à côte. Et puisque nous parlons vraiment de faits réels, on ne va pas aussi avoir honte des mots. Il y a une famille dont tous les hommes ont violé toutes les femmes de l'autre famille.
La famille voisine.
Voilà, la famille voisine. Dans ces conditions, qu'on dise, bon, il y a la paix, ça va, on vient. Mais ils vont venir. Ils vont venir, mais ils auront la rancœur, ils auront la rancune et ils finiront par se venger. Alors qu'il suffit simplement que des personnes, même qui ne sont pas des juristes,
puissent témoigner,
puissent parler entre eux et dire, bon, écoute, vraiment, ce que tu as fait là, il faut reconnaître que vraiment tu as eu tort. L'autre va reconnaître son tort et ça peut aller comme ça. Maintenant, ça peut nécessiter des réparations, etc., etc. La réparation, ça peut être individuelle directement, mais la réparation va surtout être une réparation de l'État.
Alors, Mamadou Obatili, vous êtes membre de l'association Les Sofas de la République. En plus d'être membre de cette association, vous êtes également un homme de droit. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez donner un sens à la justice transitionnelle voulue et décrite aujourd'hui par Salom Traoré d'Amnesty International?
Au fait, je suis un puriste. Cette justice dite transitionnelle, je me méfie beaucoup des adjectifs. Parce que je n'ai pas compris jusque-là, je mène des recherches, je demande là-dessus ce que c'est qu'une justice transitionnelle. Il y a eu beaucoup de formes de justice expérimentées selon les crises à travers le monde, le tribunal de Nuremberg, de beaucoup de choses, de Gacaca au Rwanda, les tribunaux ad hoc, histoire de vouloir un peu mettre toutes les victimes et tous les bourreaux d'un côté à l'autre, vouloir donner une forme de justice, mais qui au fond ne va pas penser toutes les blessures du fait né des infractions. Il y a un principe en droit pénal qui dit la peine elle est personnelle. Il n'y a pas de peine collective. La vérité n'a pas de temps. La vérité n'a pas de temps. Peu importe le temps, il faut mettre tous les moyens pour réunir les éléments en vue de son manifestement. Maintenant, dans le cas espèce du Mali que nous vivons aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait tout de suite essayer de donner une forme de justice dans un temps, laps de temps qu'on va se fixer, au cours duquel on va essayer de rassembler ceux qui seront présumés bourreaux et ceux qui seront présumés victimes pour essayer d'organiser un semblant de procès, prononcer des semblants de condamnation et ensuite exhorter les uns et les autres au pardon au nom d'une soi-disant réconciliation? Non, l'impunité est la plusieurs formes. Certaines résultent, si vous voulez, de l'absence du fait et de l'absence de règles, de l'application des règles aussi, de l'absence de l'État. Mais certaines aussi résultent, si vous voulez, de l'intelligence machiavélique des gouvernants voyez, à vouloir un peu tout simplement légitimer quelque chose qui aurait été fait, mais tout en faisant penser, passer à l'opinion, dans l'opinion des victimes que c'est la justice, il faut qu'on passe vite. Moi, je crois qu'il y a des crimes qui sont qualifiés et des crimes de guerre, des crimes internationaux, qui sont imprescriptibles. L'imprescriptibilité recommande que le juge d'instruction qui va être saisi pour enquêter là-dessus puisse n'être soumis à aucune pression, sous prétexte ou même quel qu'en soit au nom de la paix. Il doit être libre parce que si la vérité est mal prononcée, elle va tout le temps déposer des bulles. Donc moi, je me dis qu'aujourd'hui, l'enquête qui doit être menée, qui fait partie des revendications de l'Amnesty, une commission d'enquête internationale, elle doit être mise en place, qu'elle enquête sur tous les crimes. Est-ce qu'il s'agit des crimes commis tout simplement pendant la crise ou bien il s'agit de l'impunité au Mali? Dans ce cas, il faut remonter très loin et voir dans nos vies quotidiennes qu'est-ce que nos tribunaux rendent comme décision. Qu'est-ce que nos gouvernants font de la justice? Qu'est-ce que les tenants de l'animation, enfin les animateurs de la justice font de l'instrument et de la loi? À ce titre, moi je me dis que longtemps nous avons choisi beaucoup de formes de justice transitionnelle, comme intégrer les rebelles dans l'armée. C'est une forme de justice aussi. Parce qu'ils se sont dit victimes quelque part de justice, enfin d'injustice de l'État. Ils se sont dit victimes sociales, sociaux, victimes économiques, victimes même si vous voulez de bonne gouvernance. Et donc en guise de réparation de cette injustice, on les a intégrés comme ça, en violation du principe de concours de la procédure issue du principe de l'égalité de tous, des concours pour accéder aux fonctions publiques, on les a intégrés dans l'administration, on les a intégrés dans l'armée, on les a intégrés dans l'armée. Ça aussi c'est une forme de justice transitionnelle. Ok, c'est une forme de justice. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit à la fracture sociale. Je vous rappelle un fait qui s'est produit pendant que j'étais à l'extérieur, c'était sous l'ère de ATT. À un moment donné, les populations du Sud sont sorties et puis voilà, chacun est parti chez celui qui avait la couleur du Nord, qui venait du Nord, et puis on s'est attaqué aux Nordistes à Bamako. C'est cette injustice qui a été accumulée, qui a produit un sentiment, si vous voulez, d'infériorité d'une couche par rapport à une couche. Et donc la couche inférieure s'est sentie victime, si vous voulez, de l'abus de la couche minoritaire et pour aller s'en prendre à un moment donné. Alors, est-ce que vous voulez une forme de justice transitionnelle pareille? Non, toute justice qui subit une pression de quelque nature qu'elle soit, au nom de quoi, de quel que soit, enfin, au nom de quelques principes qui soient, n'est plus une justice. Ça, d'accord, c'est un principe béaba du droit.
D'accord. Alors, Saloum Traoré, vous aviez organisé une marche hier avec d'autres associations. Vous parliez de réseau. Est-ce que les propos du ministre de la Justice vous ont satisfait hier?
Bon, j'étais resté un peu sur ma faim hein, parce que le ministre il a beaucoup parlé. Il a dit des choses qui vont en droite ligne de ce que nous pensons. Il a dit aussi des choses qui sont discutables selon nous-mêmes.
Comme quoi?
Comme par exemple mettre au-dessus de la justice bien cette question de raison d'État. Hein. Par exemple, il a parlé de Huka Huka qu'on a libéré parce que l'État se trouve dans une situation où il faudrait peut-être libérer certaines personnes pour pouvoir profiter de ce qu'ils connaissent, pour pouvoir les amener aussi à aider, etc., contre d'autres, etc., etc. Nous trouvons que quand quelqu'un a commis des crimes de cette nature, rien ne peut justifier qu'il soit libéré comme ça.
Alors, juste avant de poursuivre avec cette question de libération, je vous rappelle que le deuxième volet de cette émission porte justement sur les libérations extrajudiciaires et sur cette question de libération du juge islamique de Tombouctou, au Kaouka. Nous allons amplement en débattre dans la deuxième partie, juste avant d'accord, cette petite pause.
D'accord.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Cette émission est écoutée partout au Mali grâce à nos 20 stations radio partenaires. L'émission d'aujourd'hui porte sur la lutte contre l'impunité au Mali. Cette deuxième partie sera donc consacrée aux libérations extrajudiciaires au Mali. Pour en débattre, deux invités, Saloum Traoré, directeur exécutif d'Amnesty International Mali, Mamadou Batili de l'association Les Sofas de la République. Alors justement, cette deuxième partie parle des libérations extrajudiciaires. Vous parliez tout à l'heure de la libération de
du juge islamique de Tombouctou pendant l'occupation ou quoi. D'ailleurs, nous avons une réaction du MNLA qui dément avoir demandé la libération de Ouka Ouka et d'autres islamistes mis en cause dans ces libérations. Nous l'écoutons.
Créer une armée et faire la paix, ce sont des choses qui se construisent. Ça ne se décrète pas. Il faut les construire. Il faut d'abord amener tous les citoyens de ce territoire à être fiers d'appartenir à une même gouvernance d'État. C'est un travail de base. Aujourd'hui. Il faut tout revoir. Donc c'est pour cela que anticiper pour pouvoir dire qu'on est souverain, ça ne sert à rien. Il faut d'abord construire la souveraineté à partir de chaque citoyen. De rassurer, la justice est très importante dans cette histoire. Aujourd'hui, on essaie de nous coller, par exemple, la libération de l'islamiste, du chef du juge islamique de Tombouctou, M. Al-Hussein Yago Kaouka. Mais nous le démentons, clairement. Nous n'avions pas demandé sa libération. L'État malien l'a fait volontairement. Nous n'avons pas demandé la libération de Yoro Daha, qui a affirmé ce génocide. Il est narcotrafiquant bien avant. Non plus des commissaires islamiques de Gao, mais Gao, tout, je ne sais pas, le jeune qui faisait le commissaire islamique à Gao, il est à Bamako maintenant. Je sais qu'il veut délibérer bientôt. Donc nous demandons au peuple malien et aux populations de l'Azawad que les mouvements, en tout cas la coordination des mouvements de l'Azawad, ait demandé la libération de toute personne impliquée dans des cas avérés de gestion, en tout cas de la barbarie qui s'est produite dans l'Azawad. C'est archi fou.
Voilà, c'était là un entretien que Ataï Ag Mohamed, le président de la commission droits de l'homme du MNLA, nous a accordé à Alger. Alors, quelle réaction est-ce que vous avez, Saloum, après avoir écouté Ataï Ag Mohamed du MNLA?
Bon, écoute, ce que moi je vais dire après l'avoir écouté, c'est que de toutes les façons, que ce soit eux qui aient demandé ou que ce soit le gouvernement qui ait libéré Ouka Ouka de manière unilatérale, nous, en tant que défense des droits humains, ça ne nous regarde pas du tout. Ce qui nous regarde, c'est que ce type s'est trouvé libéré. Et nous avons tenu à manifester notre mécontentement par rapport à ça. Nous avons dit que de par tout ce qu'il a eu à faire, il faudrait qu'il réponde. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les victimes qui sont là. Il y a ceux qui sont là encore avec leurs bras coupés. Il y a celles qui ont été violées. La prison de Tombouctou, la prison pour femmes à Tombouctou, qu'est-ce qu'on n'a pas fait là-bas? Mais nous ne pouvons pas comprendre qu'il soit libéré de cette façon. Et de toutes les façons, nous, que les hommes en armes qui sont là-bas, qu'ils demandent ou qu'ils ne demandent pas qu'ils soient libérés, nous, ça nous laisse vert, ça ne nous dit absolument rien. C'est ce qui a été fait. Dans les faits, nous avons constaté qu'il y a eu libération, nous nous sommes levés contre cette libération. Nous n'avons pas dit que c'est eux qui ont demandé. Maintenant, si c'est l'État qui dit que c'est eux qui ont demandé, c'est pour ça qu'ils ont libéré, là aussi, on ne comprend même pas. De toutes les façons, l'État n'est pas là pour subvenir, disons, pour accepter tout ce qu'ils demandent. Sinon, on ne serait même pas obligé d'aller à Alger.
Voilà. Alors, Mamadou Batili, vous êtes de l'association Les Sofas de la République. Un mot, après avoir écouté Ataï, et un mot sur les libérations extrajudiciaires.
D'accord. Je vous rappelle que je suis Mohamed.
Pas Mamadou. Mohamed.
Mohamed.
Autant pour moi.
Mohamed. Batili.
Mohamed.
D'accord. Au fait, ce qu'il a dit, ce n'est que justice. Hein. Aucune nation ne peut se bâtir que sans la justice. Et la justice, elle doit être bâtie à partir de chaque citoyen. Ça veut dire quoi? Que chaque citoyen doit être consulté par rapport aux lois qui doivent régir la société dans laquelle il va se trouver et laquelle loi va être dotée d'une force que lui, il va lui attribuer et qu'il va décider de s'y soumettre. C'est ça la justice. Quand les citoyens ne sont pas les enfin, ne sont pas les souverains, ne sont pas les législateurs de la loi, ils se trouveront étrangers face à la loi et ne sauront pas apprécier la loi et l'appliquer ou la respecter. Donc ça, je suis d'accord avec lui, la justice. Qu'ils n'aient pas demandé la libération de l'autre, que ce soit du seul fait ou bien du gouvernement, ça renvoie au système juridique et à l'organisation judiciaire que nous avons dans notre pays. Si le gouvernement dit agir par raison d'État ou par intérêt d'État pour procéder à des libérations que vous qualifiez abusivement d'extrajudiciaires, parce que chaque libération, chaque personne détenue dans une prison y entre en vertu d'une ordonnance et ne peut être sorti qu'en vertu d'une ordonnance. Donc l'ordonnance est une décision judiciaire. Donc ce n'est pas extrajudiciaire. La libération a lieu par la décision de la justice. C'est une qualification.
Donc vous ne comprenez pas la démarche de l'État. Des associations de droits de l'homme.
Je les comprends. Qui dénoncent... Je les comprends. C'est pourquoi je dis que j'arrive pas à comprendre dans la bataille, dans la philosophie des associations de défense des droits de l'homme des pays francophones, de déplorer d'un côté l'indépendance de la justice, l'impartialité de la justice, surtout l'indépendance de la justice vis-à-vis de l'exécutif, et de cautionner que l'organisation de la justice prévoit en son sein une place qui s'appelle le parquet. Le parquet qui n'est rien d'autre que, historiquement, la présence du roi à l'intérieur des tribunaux français. Donc le roi étant le représentant de Dieu sur terre, et que donc la loi qui est appliquée sur terre est censée être celle de Dieu, et que donc seul son représentant peut veiller à l'application des règles dans les tribunaux en France.
Donc vous pensez que ces libérations sont légales ?
Ces libérations, du point de vue du système organisationnel juridique que nous avons, du point de vue de la mission qui est assignée au gouvernement de veiller sur l'intérêt de la société, alors il use de tous les moyens, y compris de passer par le parquet. Mais là où je n'accuse pas le gouvernement et que je crois qu'il faudrait pointer du doigt, c'est le juge d'instruction. Il est juriste, il est là. Le procureur ne libère pas comme ça. C'est le juge d'instruction. Si le procureur est pour la libération et que le juge d'instruction n'est pas, la libération n'est pas ordonnée. Si le juge d'instruction ordonne la libération et que le procureur fait opposition, c'est la chambre d'accusation qui tranche. Donc si l'État, à travers le procureur, demande la libération de tel prévenu et que le juge d'instruction, qui est indépendant, un juge du
même
siège...
Même sans procès.
Non, c'est une liberté provisoire, ce n'est pas un acquittement. Hein. Qu'on soit clair là-dessus.
Une réaction, Saloum ?
Voilà. Bon, c'est-à-dire que nous avons reproché à l'État de s'être immiscé dans le travail de la justice. Aucun juge ne nous a montré une ordonnance pour dire que, en âme et en conscience, il procède à la libération. C'est pour cela que nous avons considéré ça comme des libérations politiques. C'est l'État qui a libéré, disons, l'exécutif qui a libéré. Ce n'est pas le judiciaire. Il n'y a pas eu de justice. Il n'y a eu absolument rien.
Mais comment ça doit se passer?
Ça devait se passer qu'une fois que la personne a été arrêtée et a été mise à la disposition de la justice, qu'on laisse la justice aller jusqu'au bout. Que les juges, dans un procès équitable avec des avocats par-ci et par-là, discutent et arrive à la libération.
Est-ce que je peux vous demander juste une précision?
Alors, l'État... Nous n'allons pas nous attarder sur cette question. Alors, justice...
C'est important que les gens comprennent le fonctionnement, parce que c'est à partir de là...
Oui, okay, d'accord. Mais malheureusement, nous n'avons pas le temps pour décortiquer plus en profondeur, vu que nous avons trois axes et plusieurs questions pour élucider un peu cette crise. Une juridiction internationale doit-elle se substituer à la justice malienne dans ce contexte, Mohamed Bachili?
Mais ce serait plus de la souveraineté. La justice internationale n'intervient qu'en cas de défaillance ou bien qu'en cas de mauvaise volonté de l'État ou qu'en cas en réalité de l'absence des règles ou des tribunaux est susceptible de garantir un procès équitable. Jusqu'à preuve du contraire, l'État du Mali n'a pas fait preuve de cas de ces insuffisances-là ou de cette mauvaise
juste
volonté.
Juste une parenthèse, Mohamed Bachili, peut-on parler de souveraineté à partir du moment où pratiquement la région de Kidal est sous contrôle des groupes armés et l'appareil judiciaire ne fonctionne pas comme il faut dans certaines régions comme Tombouctou et Gao? Peut-on véritablement parler de souveraineté?
C'est là toute la question. Quand vous dites « peut-on parler de la souveraineté ?» À ce que je sache, la loi, la justice n'est pas présente sur une partie, mais pas sur l'ensemble du pays. Le reste du pays qui abrite encore les institutions judiciaires, où les juges sont libres, où les lois sont en application, où la machine est existante, c'est à lui de mettre ses capacités pour s'étendre sur l'ensemble du territoire. D'où la mise en place d'une enquête internationale là-dessus. Et donc, parce que les crimes qui ont été commis relèvent en réalité, si vous voulez, dépassent que le seul Mali. Même si le Mali arrivait à amnistier certains de ces crimes, ils ne seront pas prescrits à l'extérieur. Donc c'est pourquoi je me dis que ces prisonniers ou ces prévenus qu'on a pu à un moment donné appréhender et placés sous mandat de dépôt et sous notre contrôle ou qu'on puisse au besoin les faire appel pour essayer de prospecter afin de faire sortir la justice. Donc c'est à la justice de faire preuve, même si c'est dans un petit millimètre carré. Donc moi je me dis qu'aujourd'hui, la justice internationale, on n'en a pas besoin que lorsque nous sommes dans l'incapacité à l'extérieur de pouvoir procéder à des enquêtes par des missions rogatoires ou autre chose, ou que l'intérieur nous y relevons des insuffisances matérielles, techniques et intellectuelles pour pouvoir poursuivre certaines formes de crimes, en ce cas nous pouvons faire appel. Mais jusqu'à preuve du contraire, il revient aux autorités judiciaires, aux autorités politiques de se déclarer insuffisants ou incapables pour faire appel. Donc la souveraineté, elle est aussi judiciaire aussi. Elle n'est pas que territoriale. Donc juridiquement, nous avons une loi qui est en nous. Nous avons des codes qui sont en nous. Nous avons des tribunaux qui sont en nous. Nous sommes souverains juridiquement. Nous avons une juridiction. Nous avons un ensemble de règles de loi qui sont là, devant régir nos vies, sanctionner les infractions commises, les procédures à suivre, les condamnations. On a des codes bien ficelés ici. Alors, donc c'est à cette justice de se mettre en branle que l'amnistie demande aujourd'hui qu'elle puisse travailler en toute indépendance et encore que j'invite qu'elle puisse vraiment demander que l'État arrête de s'y mixer en vertu de la loi. Donc, il commence
donc
à demander...
Vous admettez que l'État s'y mixe ?
Non, l'État ne s'y mixe pas légalement. Le parquet, c'est l'État. Mmh. Il les connaît.
L'État, c'est légal.
Légal, c'est le président de la République et le chef suprême de la magistrature en vertu de l'histoire que je viens de te dire.
D'accord.
Qui lui donne le pouvoir de nommer le ministre de la Justice, qui nomme aussi les procureurs généraux et les procureurs de la République.
C'est
la porte d'entrée de l'exécutif. Contrairement aux États-Unis, où le procureur n'est pas nommé.
Nous n'allons pas aller jusqu'aux États-Unis, nous restons au Mali.
Non, pour que tu comprennes le parquet, aux États-Unis, l'exécutif n'entre pas dans la justice parce que là-bas, le procureur est élu.
C'est dit.
Au Mali, il est nommé.
C'est dit.
Voilà toute la différence.
Saloum Traoré, pensez-vous que aujourd'hui une justice internationale doit remplacer celle que nous voyons au Mali?
Voilà, bon, d'accord. Avant d'arriver à là, je vais juste dire un mot là par rapport à ça. Le président de la République lui-même en personne ne peut décider de libérer quelqu'un sans justice. Il ne peut pas. Il faudrait qu'il y ait justice et qu'il use de son droit de grâce. Mais il ne peut pas, même en tant que président de la République, quelle que soit la gravité, quel que soit le pouvoir que l'État lui donne, l'État ne lui a jamais donné le pouvoir de venir prendre un prisonnier et de le libérer. Au nom de quoi ?
Mais l'État lui donne le droit de demander la libération.
N'importe qui peut demander la libération.
Ah, voilà.
Maintenant, l'État lui donne le droit de gracier qui il veut après un procès équitable.
Alors, cette justice internationale.
Voilà. Donc, pour venir un peu à votre question, la justice internationale n'est que complémentaire. C'est-à-dire que, comme il l'a dit, c'est quand l'État...
Ne remplace pas l'État.
C'est-à-dire quand l'État se déclare...
Défaillant,
incapable de faire cette justice, ou si l'État ne veut pas faire cette justice, parce qu'il y a aussi il y a la nuance, si l'État ne veut pas faire la justice... La justice internationale va s'imposer. Maintenant, si l'État ne peut pas faire la justice internationale s'impose. Dans le cas du Mali, les deux sont là. Les deux sont là. D'abord, nous connaissons notre justice. Elle a été décriée par tout le monde. Et ce n'est pas d'un revers de la main que nous avons une justice tout de suite capable de rendre satisfaction aux Maliens. Donc, les citoyens n'ont pas encore confiance à cette justice-là. Il y a des citoyens qui préféreront peut-être même la justice internationale parce qu'ils diront que c'est là qu'ils vont avoir vraiment à pouvoir s'exprimer correctement et être jugés correctement. Donc, pour le cas du Mali, il faut reconnaître que la justice malienne n'est pas dans les conditions de pouvoir donner une justice saine. Il suffit seulement de voir un peu la part du ministère de la Justice dans le budget. Je n'ose pas le dire ici, mais c'est extrêmement c'est minime. Si nous parlons même de conditions carcérales qui ne sont pas bonnes, c'est justement parce que le ministère de la Justice qui est chargé des lieux de détention, le ministère de la Justice lui-même a un budget vraiment trop petit. Mmh. Et nous avons, en tant qu'association de défense des droits humains, demandé au gouvernement de faire en sorte que la justice puisse être dotée de plus de budget pour que les cours et les tribunaux puissent vraiment délivrer une justice à la hauteur vraiment d'un pays qui voudrait avoir toute sa souveraineté.
Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant la troisième et dernière partie de cette émission.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Sachez que cette émission est également écoutée partout dans le monde et en direct grâce à notre site web www.studiotamani.org. Et n'oubliez pas de jeter un œil sur notre page Facebook sur laquelle vous pouvez continuer à débattre des questions que nous débattons dans nos différentes productions. Nous parlons ce soir dans le Grand Dialogue de la lutte contre l'impunité au Mali. Dans cette troisième partie, nous tenterons de répondre à cette question. Quelle chance pour la paix au Mali ? Justice, quelle chance pour la paix au Mali ? Pour l'occasion, nous avons comme invité Saloum Traoré, directeur exécutif d'Amnesty International Mali, et Mohamed Batili de l'association Les Sofas de la République. Alors, la troisième partie donc de ce débat, la justice, quelle chance pour la paix. La paix nécessite la réconciliation et la réconciliation nécessite également la prise en compte de la douleur des victimes. Comment combiner ces différents facteurs, Mohamed Batili?
La justice, si elle est appliquée, je suis au-delà. Je vais vous citer, paraphraser la citation d'un chanteur que j'adore beaucoup, qui fait du reggae, Peter Tosh, qui dit « I'm not crying for peace, I'm not crying for love, I'm crying for equality, right and justice. » Je ne pleure pas pour la paix, je ne pleure pas pour l'amour, je pleure pour l'égalité des droits et de justice. Parce que si il est établi et confirmé, consolidé, la paix et l'amour découlent d'elles-mêmes. Crier pour la paix sans la justice, c'est une paix éphémère, c'est une paix superficielle, alors qu'il n'a pas de fondement. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui dans ce pays? C'est là que je suis d'accord avec l'Amnesty, mais pas la forme transitionnelle. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, l'impunité, comme on l'a décrié du fait, l'absence des règles ou autre chose, l'impunité des droits, c'est ce qui a cours dans ce pays depuis des années. Ça veut dire quoi? C'est la volonté, la prééminence de la volonté politique sur la force du droit et de la règle ici. Okay. Et c'est par cette même forme d'impunité, source du droit, qu'on est en train de peaufiner, qu'on a tout le temps fait, qu'on va faire Algérie, ça veut dire quoi? Que suite à la pression d'un groupe puissant, l'État va légitimer des infractions par la loi d'amnistie, par la grâce, par autre chose. Et ça, c'est là au mépris de la volonté, de la justice, du droit des victimes à la justice, à la vérité, à la mémoire, que cela va se faire. Tu peux faire taire une victime. L'impunité, l'amnistie, tais-toi, la faute n'a pas existé, mais tu ne peux pas lui ôter dans la mémoire ce qu'il a subi. Tu ne peux pas lui ôter dans la mémoire ce qu'il a subi. Donc la justice, la paix aujourd'hui, elle ne peut passer que par la justice. Comme il a dit, ces deux familles à Gao. On ne peut pas par un goût de maquette ou bien une soirée de conférence ou de danse leur dire que c'est fini, donnez-vous la main et puis voilà, c'est la paix. La fille qui a été abusée, violée par son bourreau, son violeur qui est à côté de lui, qu'il côtoie tous les jours dans la rue, qui a bénéficié de l'impunité du fait d'avoir pris les armes ou au nom d'une soi-disante paix, chaque regard qu'il va poser sur son violeur, ça lui rappelle des douleurs, des souffrances qui vont lui empêcher de vivre sa joie dans ce pays. Et aujourd'hui, je suis pour que la justice, qu'elle s'applique sans distinction de couleur, qu'elle ne puisse pas s'exonérer sous prétexte que tel a pris des armes pour qu'il la dépose, il faudrait lui exonérer ou lui rassurer qu'il court l'impunité. Ce n'est pas de la justice. Et c'est en cela que je me dis que l'Alger définit à ses jours à Alger l'avenir du Mali. L'avenir du Mali, pas l'avenir politique, de la nation même. Parce que la nation est un sentiment qui repose sur un esprit, un sentiment d'unicité, un sentiment d'intérêt commun. Et cet intérêt commun ne peut animer chacun que lorsque chacun se sent égal à l'autre et que cette égalité est garantie par des institutions, des règles qui s'appellent la justice. Donc la paix passe par la justice, que lorsque la justice arrive à identifier les infractions, à poursuivre les auteurs, à organiser un procès, s'ils sont condamnés, qu'ils puissent purger leur peine. Ok ? Ça, sans cela, point de justice, okay. Point de paix aussi.
Alors, Saloum Traoré, vous êtes d'Amnesty International. Aujourd'hui, on parle beaucoup de paix, de réconciliation. À Alger, les pourparlers sont enclenchés. Pensez-vous que la période de 2 mois que les partis se sont donnés sera suffisante pour faire la paix et aller à la réconciliation?
Je préfère dire que je suis le président du réseau des défenseurs des droits humains, puisque si je m'en tiens seulement à Amnesty, il y a beaucoup d'émissions que nous refusons de faire. Mais ma casquette de président du réseau des défenseurs des droits humains me permet de parler encore beaucoup plus librement d'un certain nombre de problèmes.
Allez-y.
Je sais que, comme il a dit, c'est vraiment l'avenir même du Mali qui est en train de se jouer. Et c'est pour cela que nous avons dit que nous n'allons pas rater l'occasion. Il faut que, à l'intérieur, les citoyens puissent se manifester pour dire que, écoutez, nous sommes là. Vous êtes à Alger, pensez aux victimes. N'allez pas simplement dire que bon, nous sommes venus pour faire la paix. La paix doit être précédée par la justice. La paix doit être le résultat d'un travail énorme qui rétablit d'abord la justice. Et c'est pour cela que les organisations de défense des droits humains ont voulu donner de la voix. Et nous pensons que nous avons été écoutés de l'autre côté. Et nous pensons que cela va pouvoir donner un peu de légitimation, un peu de légitimité à ceux qui sont là-bas. Parce qu'ils doivent aussi pouvoir être... ils doivent pouvoir se dire que, bon, voilà, la société civile du Mali nous appuie. Voilà. Ce n'est pas le gouvernement que nous appuyons. Ce n'est pas les rebelles que nous appuyons. Mais c'est la justice que nous demandons. Et si on essaie de pratiquer cette justice, ça donne de la légitimation à ce travail qui est en train de se passer là-bas, qui est d'une importance capitale.
Alors, nous allons vous proposer cette réaction du président de la commission droits de l'homme du MNLA, Ataï Ag Mohamed, toujours au cours de l'entretien qu'il nous a accordé à Alger, qui parle de l'exécution, qui revient sur les faits après le passage du Premier ministre Moussa Mara à Kidal.
Nous rassurons encore, il n'y a pas eu d'exécution sommaire. Il faut que les mesures de confiance se trouvent. Il faut que la partie malienne travail, ces termes et ces mots. C'est très important pour lui-même d'abord. Parce que si tu fais admettre à tes citoyens que la personne avec laquelle tu négocies a tué des gens de cette façon-là, dis-toi que si demain tu veux faire la paix avec ces gens-là, c'est toi-même qui te mets en danger. Donc il faut que le gouvernement arrête avec des choses qui peuvent compromettre la paix pour les citoyens, mais pour lui-même dans son intérêt de gestion politique du territoire et de la gouvernance. C'est très important. Dans un Mali uni, intégral, souverain et laïque.
Alors, je rappelle que nous avons tenté de joindre les représentants du Mali, du ministère de la Justice, par rapport à cette émission. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu de suite favorable à cette invitation. Alors, une réaction après avoir écouté le président de la Commission des droits de l'homme du MNLA, Saloum.
Bon, je pense que c'est que le président de la Commission des droits de l'homme de MNLA vient de dire, c'est une affirmation vraiment personnelle que ça n'engage que lui. Moi, je ne peux pas comprendre qu'il puisse nier aujourd'hui qu'il n'y a pas eu d'exécution extrajudiciaire. Qu'est-ce qu'il appelle exécution extrajudiciaire? Eh bien, des gens se sont introduits dans une maison où des civils sans armes sont et ils ont délibérément tué des personnes.
Aujourd'hui, vous déplorez la mise en place de la commission internationale qui doit enquêter sur cette question. Pensez-vous que finalement cette commission pourra être mise en place?
Non, cette commission doit être mise en place de toutes les façons. Il faut forcément que cette commission soit mise en place. Parce que bon, écoute, ils peuvent toujours dire que non, ce n'est pas eux, c'est d'autres groupes ou bien c'est d'autres personnes, etc., etc. Mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, il y a des personnes, des citoyens, des administrateurs civils qui ont été tués par ces gens-là à Kidal. Donc qu'on ne nous dise pas aujourd'hui que ce n'est pas des exécutions extrajudiciaires. Ce n'est pas après un jugement, on n'a pas, ce n'est pas des condamnations à mort, ce n'est pas, etc. C'est des gens qu'on est venu tuer comme ça.
Alors, Mohamed Batili de l'association Les Sofas de la République, pensez-vous qu'une commission d'enquête internationale puisse faire la lumière sur ces exécutions qui ont eu lieu à
Mais évidemment, l'enquête...
Comment devra-t-elle enquêter?
L'enquête s'impose d'elle-même de manière un peu neutre, impartiale et juste, et dans laquelle vraiment il faudrait que l'État du Mali et toutes les parties soient représentées, afin que chacun n'ait pas à accuser la commission de partiale et tout ça. C'est que, de loin, c'est une autorité légitime qui s'est rendue sur une partie de son territoire, telle que reconnue par les préambules de l'accord de Ouagadougou, les deux résolutions des Nations Unies, qui aussi, laquelle délégation a été sécurisée par les forces des armées et de sécurité du Mali, les seuls légalement habilités à porter les armes dans une république, dans un état de droit. Toute autre personne ou groupe en possession d'armes sans une autorisation légale, alors se rend coupable de détention illégale d'armes. Et que s'il y a ouverture de feu, alors et que ceux-là qui se sont introduits dedans, qui ont revendiqué par la suite faire des prisonniers, ils doivent répondre de ces actes et d'avancer les raisons pour lesquelles ils les ont fait. Et l'enquête, si elle est poussée de manière intelligente, impartiale, va même jusqu'à épingler la MINUSMA et la CERVAL pour responsabilité passive. Il y a tout ça. Elle doit être menée pour pouvoir penser l'équerre. Elle doit être menée parce que l'impunité, comme est le thème d'aujourd'hui ici, elle est un obstacle à l'unité sociale, à
la
stabilité.
Les partis se sont donné un mois pour faire la paix et trouver un terrain d'entente. Pensez-vous que cela puisse se faire?
Vous parlez de quel genre de paix? C'est cela la question. Parce que si les autorités politiques, de manière légitime et libre, se déplacent pour aller discuter avec les représentants des groupes qu'on a qualifiés de tels avant, ça n'engage que. Mais toute décision qui va être prise à Alger n'aura pas de force sur les lois maliennes. Pas du tout. À Alger, on ne va pas adopter des règles qui vont venir modifier le fonctionnement des tribunaux au Mali, qui vont venir réduire les prérogatives des juges d'instruction, qui vont venir redéfinir ici les fondements des infractions au Mali, qui vont venir aussi aller, ou bien élargir aussi les causes d'absolution au Mali, ou bien les causes d'impunité comme les choses... Non, non, non.
Il y aura forcément des consensus.
C'est là que le consensus est politique. Il ne doit pas avoir de force sur la loi.
Vous parliez tout à l'heure de la légitimité des groupes, des éléments, des combattants à intégrer l'armée malienne comme une forme de justice.
Non, est-ce que vous ne vous... Je dis c'est la forme de... On a voulu donner, on a voulu régler cela. C'était une forme de justice transitionnelle que les tenants de cette philosophie ne disent pas.
Parce et pensez-vous que cela ne puisse s'appliquer
dans le cas actuel ? Il n'y a pas deux justices dans un état de droit. Il n'y a qu'une seule justice, une seule règle, une seule loi, une seule procédure de rendre la justice dans un état de droit. Et cette seule procédure a défini le code pénal est très clair au Mali ici. Il n'y a pas de code pour tout le monde et de code exceptionnel pour les Touaregs ou bien pour les rebelles ou pour quoi que ce soit, ou bien pour les Bella ou bien pour les Sarakoulé ou pour les Malinka.
Pensez-vous ça n'existe qu'on pas. Puisse arriver à une paix ?
Mais nous ne pouvons y arriver. Là, une paix sincère, nous ne pouvons y arriver qu'avec la justice.
Pensez-vous que cela puisse se faire?
Cela est possible si, je le demande à mon tonton, que si on se bat pour que les juges d'instruction au Mali puissent assumer leur rôle, que si le pouvoir demande la libération, que le juge d'instruction voit que les conditions de libération provisoire ne sont pas réunies, qu'il donne une ordonnance, il donne un refus, qu'il s'oppose à la libération. On le voit partout. Barack Obama a répondu à François Hollande dans l'affaire d'une histoire de film.
Mohamed, restons au Mali. Merci beaucoup. Voilà. Saloum, dernier mot.
Oui, moi je pense que la justice, disons la paix a une chance. Hein. La paix a une chance parce que pour une première fois, eh bien, c'est des pourparlers inclusifs. C'est toute la société civile, disons c'est toute la population malienne qui est là-dedans. Même si bon, nous avons des réserves par rapport aux personnes qui représentent la société civile là-bas, le temps qu'on s'est donné, on s'est donné un mois, on a le temps de débattre de tous les problèmes et sincèrement, on pourra arriver à une paix.
Merci beaucoup. C'est la fin de ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Il parlait de la lutte contre l'impunité au Mali. Trois volets. La justice en temps de crise, les libérations extrajudiciaires au Mali, la justice, quelle chance pour la paix au Mali. Nos invités, Saloum Traoré, directeur exécutif d'Amnesty International Mali et président du réseau des associations de défense des droits de l'homme, Mohamed Batili de l'association Les Sofas de la République. Merci à vous messieurs pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Ousmane Diadié Touré a réalisé cette émission. Peting Diarra était à la mise en onde. Nous vous disons bon week-end et à lundi pour un autre débat.
Le
grand dialogue.
Sigika Foba.
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mounde.
Chen Nibiru. Sigika Foba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.